c'est chacun sa situation ou une situation commune?
Je pense que chacun peut déjà réfléchir à une situation et vous pouvez commencer juste par donner un petit topo et de votre situation, un petit descriptif d'une situation. Le vrai objectif, c'est ici la façon que je pense que vous pouvez travailler cette question. Si vous réfléchissez à votre situation et vous réfléchissez à ce que j'ai dit ici par rapport à cette question de qu'est-ce que je gagne. C'est ça vraiment. Réfléchissez à votre situation parce qu'en fait, là, on n'y pense jamais. On pense jamais vraiment à qu'est-ce que je gagne en me sentant vraiment blessé ou contrarié. C'est juste. La question ne nous paraît pas évidente. Et donc, si en réfléchissant à ça, il vous traverse l'esprit de dire quelque chose, vous dites à votre petit groupe, et si vous avez du mal à le voir, vous dites aussi, j'ai du mal à voir ce que je gagne en ressentant une douleur quelconque. Et à ce moment-là, si vous avez du mal aussi dans votre groupe, je viens vous voir et j'essaie de vous aider à comprendre comment commencer à ressentir. C'est très subtil. C'est ça.
C'est bien, faites ce que vous voulez. Hein.
C'est la chose que une certaine partie de nous ne veut absolument pas que nous voyons. Mmh. Absolument pas.
Non, mais ce que l'on gagne, dans un premier temps, on gagne une satisfaction à alimenter la colère, c'est-à-dire une autre partie de nous.
Oui. Et c'est très bien si tu peux ressentir qu'une partie de toi, de nous, prend plaisir dans la colère. La colère est une adrénaline. D'accord, et nous sommes des êtres qui s'alimentent avec l'adrénaline. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Peut-être toi tu le vois. C'est peut-être dans le sang portugais, je ne sais pas, de ressentir.
Mais on le voit parce que quand on est en colère ou qu'on en veut, on est fâché, on vient d'avoir une dispute entre ne serait-ce que avec les enfants ou avec le conjoint et autres.
Oui.
Plus on est têtu, plus on se satisfait, plus on prend plaisir à être dans cette situation très, très mauvaise. Mais pendant quelques temps, même qu'on vienne nous consoler, enfin, en tout cas moi c'est comme ça,
oui.
Il ne faut pas m'approcher tout de suite, quoi, il faut me laisser tranquille.
Oui.
Faire un rando, un petit promenade.
Dehors. Oui, mais voilà, il faut que j'aille respirer, que j'aille, voilà, et puis après... Oui. Après, on peut venir me voir et me dire, écoute, regarde, c'est pas comme ça quand même, tu vois bien, tu dramatises, mais voilà. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on y gagne? Rien, sauf cette mauvaise chose qui alimente cette colère noire, qui va partir bien sûr après. Mais sur le coup de la colère, on ne peut pas accepter d'avoir tort, parce que si on se dit ça c'est jaune et toi tu me dis ben non c'est rouge ou enfin vice versa, t'as raison, allez tu dis ça c'est beige et moi je dis ben non c'est rouge, tu vois rien que c'est rouge, ben non écoute, ben non c'est jaune, ben non c'est... Et puis moi j'en démords pas parce que c'est mon mauvais côté, mon autre partie qui veut avoir raison, et si je te dis que c'est rouge, c'est que c'est rouge, et c'est pas la peine que tu viennes tout gentiment la 21e minute qui suit, hein,
d'accord,
écoute calme-toi, tu
vois bien que c'est... Oui, c'est très bien, mais c'est peut-être pour toi c'est peut-être évident dans une situation de colère, mais c'était moins évident dans une autre situation de tristesse ou de perte, que c'est quelque chose en toi qui dit c'est une expérience réelle qui vient de quelque chose à l'extérieur de moi qui est en train de provoquer ce sentiment de perte ou de tristesse, d'accord. Est-ce que je suis capable de voir la partie de moi qui se sent aussi alimentée? Qui sont une sorte de... Donc chacun a peut-être plus de facilité à voir sa complicité dans son humeur, dans une certaine situation, mais un peu plus de mal dans une autre situation. Parce que notre expérience peut-être de la vie ici peut être vraiment profondément tranquille et sublime tout le temps. Si ce ne l'est pas, c'est par notre choix. Si c'est notre choix, c'est un choix que nous ne voyons pas. parce que si nous le voyons,
si nous voyons, on n'en serait pas là.
Exactement, on va probablement finir par le changer et choisir plus de tranquillité. C'est-à-dire que la raison que nous restons pour la plupart du temps en dehors de cette sublime expérience d'amour, c'est qu'en fait, on ne sait pas qu'on est en train de choisir autre chose. On ne se rend pas compte. Donc, cet exercice est juste pour nous donner un instant pour dire où est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je ressens vraiment cet état sublime de bien-être ou non? Si je ne le vois pas, est-ce que je vois que c'est un choix? Non. D'accord? Et est-ce que, en focalisant sur une certaine situation précise, parce que c'est des fois, c'est plus facile, un moment de tristesse aiguë ou de colère aiguë ou de, qu'est-ce qu'il y a, de peur pour l'avenir ou de peur pour notre personne, de peur pour l'argent ou le travail, est-ce que je peux voir qu'il y a une partie de moi qui a choisi pour avoir ce sentiment très fort, très prenant?
Oui, ça veut dire qu'il y a une raison derrière le pourquoi on a choisi ceci.
Toujours.
Il y a une raison.
Exactement.
Elle est difficile à voir.
Exactement.
Sur le moment même, elle est très
difficile,
difficile à percevoir.
Sur le moment même, c'est quasi presque impossible.
Ouais, voilà.
Et même après, c'est un peu difficile. C'est pour ça, dans les moments comme des stages ici, on se donne le temps en dehors de la vie ordinaire pour essayer de voir la partie de nous qui fonctionne comme ça. Parce que la raison que l'amour reste à l'écart, c'est parce que la plupart du temps, nous ne voyons pas l'activité de cette partie de notre esprit. Donc, on vient dans les stages comme ça pour essayer de voir un peu plus précisément que l'amour n'est pas présent dans mon esprit pour une raison, c'est que je ne le choisis pas.
Oui, et pourquoi on ne l'a pas choisi? C'est qu'il y a une raison là aussi.
Bah oui, on viendra dessus, mais d'abord, essayez de voir entre vous.
Donc on choisit une situation, santé, relation, blablabla.
Une situation où il te semble que l'amour n'est pas présent, d'accord, où la tranquillité n'est pas présente, et essayez de voir par la suite comment est-ce que ça pourrait être possible qu'il y ait une partie de moi, malgré cette situation difficile, qui est en train de choisir son expérience.
Parce que toi, tu es sûr, ce que tu veux, le message que tu veux faire passer, c'est qu'en tout cas, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est que nous l'avons choisi. C'est ça.
Ça dépend ce que tu veux dire. Parce que dans le New Age, il y a certainement l'idée que chaque chose qui nous arrive ici, c'est un choix sur un plan inconscient. C'est un courant très commun. Le cours ne se mettrait pas en opposition avec ça, mais ce n'est pas le travail du cours. Le travail du cours, c'est de voir, quand je parle de ce qui nous arrive ou ce que nous expérimentons, je parle littéralement de mon expérience de l'extérieur, pas de l'extérieur, pas de ce qui se passe à l'extérieur, d'accord, mais de ce que je ressens, par exemple, une rupture. Quelqu'un que j'aime dit qu'il ne veut plus vivre avec moi parce qu'il a trouvé une autre personne. Je vais pas focaliser, on va pas focaliser ici dans le cours pourquoi j'ai attiré cette situation. Ça, c'est une autre spiritualité. La spiritualité du cours, c'est de dire comment est-ce possible d'avoir une autre expérience de cette rupture, de cet instant de rejet. Pourquoi une partie de moi va vivre ça très mal? Parce que même si on arrive à attirer les meilleures circonstances dans cette vie ici, nous n'allons pas pouvoir échapper à la souffrance. Donc nous traitons plus avec le fond de la question, c'est qu'est-ce qui est en nous qui choisit la souffrance malgré ce qui se passe dehors. Parce que des fois, on connaît tous des gens très fortunés, mais qui souffrent. Voilà. Donc, ouais. C'est pour ça que nous allons vite au fond pour voir, et on connaît aussi des gens dans des situations très modestes qui souffrent moins que les gens très fortunés. Voilà, exactement. Oui. C'est un dicton du cours qui est très difficile à accepter peut-être, mais néanmoins qui apporte énormément de justesse. C'est que la colère n'est jamais un péché, mais la colère n'est jamais justifiée. C'est pareil pour la peur. La peur n'est jamais un péché, n'est jamais un crime, n'est jamais un problème, mais la peur n'est jamais justifiée. Et c'est parce que la position du cours par rapport à notre réalité est vraiment, entre guillemets, extrême. C'est-à-dire que, en même temps que nous avons vraiment l'impression d'avoir notre vie terrestre, notre vie corporelle, nous avons une autre vie, ce qui est notre vraie vie de l'esprit. Et étant donné que cet esprit ne peut jamais être en danger et ne peut jamais subir vraiment de souffrance, ça reste en dehors d'une expérience de souffrance parce que ça reste en dehors du corps. Et c'est cette grande soi que nous essayons de rattraper, de redevenir. Donc la position du cours par rapport à tout danger et toute peur, c'est que ce n'est jamais justifié parce que notre réalité est toujours au-delà de toute attaque ou tout danger. Mais ça ne veut pas dire qu'on a que c'est mauvais de ressentir leur douleur. Il veut dire simplement que nous sommes dans la confusion par rapport à notre identité. C'est pour ça que ce n'est pas justifié, parce que personne d'autre, personne peut mettre notre réalité en danger. Ils peuvent mettre nos corps en danger. Comme Yves de Cour dit, est-ce que les pensées sont dangereuses pour les corps? Oui. Est-ce que les choses ici sont dangereuses pour les corps? Oui. Mais étant donné que la position de Cour, c'est que nous ne sommes pas nos corps, il y a un tas d'exercices comme ça. C'est pas pour denier ou réprimer le fait que nous pensons être des corps. Mais il essaie de nous ouvrir l'esprit à vraiment une autre dimension d'expérience. On peut avoir une expérience de ne pas être nos corps. On peut avoir ça.
Quelque part, se désidentifier au corps.
Tout à fait, c'est ça. Petit. Exactement. Détaché.
Il y a un film qui
me... Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu évites de te mettre en victime. Tu évites de dire, tu vois, la possibilité de dire je peux subir ce qui me fait tous les matins, ou je peux dire non, j'ai pas besoin de le prendre comme ça. Je vais essayer de vraiment dire tu es un adulte, je suis un adulte, nous sommes en égalité, il faut que je partage avec toi mon expérience de ce qui se passe. Et ça c'est éviter le piège de tomber dans cette piège de dire encore celui je vais souffrir à ses mains, et c'est là où tu tombes un peu dans cette piège de dire que tu vas souffrir à ses mains, et tu dis même un instant je pense que je vois aussi la possibilité chez moi de faire ce genre de choses, et je crois la prochaine étape 4 c'est exactement ça qui va t'aider. À savoir que si l'autre personne ressent un énorme besoin d'être reconnue et d'avoir son histoire entendue, c'est parce que toi aussi, tu as un énorme besoin d'avoir ton histoire entendue et reconnue. Donc, quand l'autre exprime ce besoin, ça te gêne. Parce que tous les deux, dans un sens, tous les deux, vous avez tort. Parce que votre vraie histoire est l'histoire en dessous de toutes vos souffrances et de toutes vos vies personnelles. Vous avez une vraie histoire. Une histoire d'amour avec l'amour, une histoire de tranquillité avec la tranquillité. Et tous les deux, vous êtes en train de mettre votre vie personnelle, vous ériger une statue à l'honneur de votre vie personnelle à la place de cette histoire d'amour. Elle fait avec ses enfants, ses histoires et tout ça. Donc tu le regardes, tu dis, waouh, il est en train d'ériger sa vie, vraiment, on fait une statue de sa vie, elle parle de sa vie comme une statue, comme une œuvre d'art. Et toi aussi, quelque part, avec toi et tes histoires, tes blessures et tout ça d'enfance, tu as fait une chose aussi de ta vie, l'histoire de ta vie, l'histoire de ton corps, depuis que c'est petit jusqu'à grand. Or, tout ce temps-là, nous avons une autre histoire, une vraie histoire en dessous, d'amour, avec l'amour, une histoire de notre vrai esprit, avec le monde de l'esprit. Et nous utilisons tous l'histoire de notre vie personnelle comme une statue devant notre vraie vie, complètement détachée de l'histoire de nos corps. Nous avons tous une histoire attachée à nos corps, chacun depuis son enfance et tout, nous pouvons tous raconter notre histoire, mais c'est toujours une fausse histoire. Parce que c'est une fausse vie, c'est une fausse identité, ce n'est pas notre vraie. Nous avons une autre vie, une autre réalité, tellement sublime, tellement grande, tellement belle. Et le fait de focaliser autant sur notre petite vie nous aveugle complètement, nous dévie l'attention, nous détourne l'attention constamment de cette autre masse de vie et d'énergie de conscience juste derrière. Je crois qu'Eckhart Tolle en parle à peu près dans le pain body, le corps de souffrance. Voilà, le corps de souffrance, c'est tout ce qui se rattache à l'histoire de notre vie individuelle depuis son enfance. Oui, exactement.
J'ai l'impression que pour moi, c'est accepter que je m'énerve, que je m'associe complètement à cette histoire de vie, de ma statue monumentale.
Ah oui, absolument.
Et petit à petit, l'échelle qui irait en se reculant, et de voir plus en plus que c'est.
Mais le fait, de voir ta statue, c'est déjà se détacher de la statue.
Oui, oui, oui.
C'est déjà fait.
S'autoriser à dire.
Ah oui, mais il n'y a aucun problème. Ouais. Avoir tout ça, il n'y a aucun problème. Le fait, c'est de ne pas le voir. Parce que, comme ça, parce qu'on est malheureux. On est malheureux de vivre sa vie de statue. Mais une fois qu'on peut continuer à la vivre, et une fois qu'on est en train de se vivre sa vie de statue, on a une petite, une goutte, une sorte de plaisir derrière notre souffrance, de plaisir derrière notre statue. Et si ça devient vraiment. On n'est plus dedans pareil. On n'est plus
dans le délibéré, quoi.
Absolument. On ne subit pas par la force des autres mécréants et tout ça. On sent sa complicité et le mouvement de sa vie. Et c'est vraiment délecté au mouvement de sa vie avec un petit sourire derrière toujours. Mais je suis en train de choisir ça.
Parce que moi, il m'est arrivé, notamment il n'y a pas longtemps, de vivre quelque chose. Et dit putain merde, j'arrive pas à m'en sortir, mais je vois que d'avoir ce double regard, mais d'être pris toute la journée, de ne pas avoir pu sortir du corps de souffrance, alors que je voyais, mais j'y suis pas arrivé.
Ah non, mais il faut. C'est tellement. Il suffit juste de savoir, il suffit juste de savoir et ne pas se juger faire. Ne pas se juger quand on se voit faire. C'est déjà sortir de l'histoire. C'est de savoir ce qu'on est en train de faire et surtout ne pas le juger. De se voir être dans son délire. On a tous un délire.
Moi, ce que je me dis, c'est aujourd'hui, tu n'y arrives pas.
Hein. C'est
mais
ça.
Se marre un peu, tu vois.
Moi, des fois, non.
Oui, parce que c'est difficile. Mais
parce que t'as...
C'est pénible, quoi. Non, c'est comme ça. Soit. Aujourd'hui, c'est comme ça et demain, parfois,
on ne sait pas. Le plus que tu peux faire.
Quand tu arrives de nouveau, chouette, j'ai retrouvé le truc. En espérant que petit à petit, c'est le moment où tu maîtrises vraiment, que tu es de plus en plus proche et que tu...
Et le plus que tu peux dire, aujourd'hui je n'arrive pas, des fois quand on étudie un cours en miracle, on sait que c'est toujours, dans le symbole du cours c'est Jésus, qui nous demande juste d'essayer de prendre un peu de recul, et des fois on lui dit, mais va faire chier, j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai pas envie, j'arrive pas. On encourage les gens à avoir ce rapport très franc, vraiment. Avec ce symbole d'amour qui nous est toujours juste là comme un symbole d'amour. Mais on peut lui dire d'aller se casser, on n'a pas envie de le voir aujourd'hui. On a envie de rester avec sa colère, sa projection, sa douleur et tout ça.
Parce que ça aussi, d'être franc, c'est de l'amour, c'est de l'authenticité.
Si on ne se juge pas quand on le fait.
Oui, mais parce qu'on est ce qu'on vit, si par rapport à ce grand amour, tu te dis... Ouais, aujourd'hui, tu me fais pas chier, j'ai envie d'être con.
Donc... Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, on le fait sans s'attaquer et sans se juger.
C'est comme ça.
Voilà. Et ça nous fait sauter des marches sur l'échelle.
Les juifs engueulent Dieu.
Mais qu'on n'en soit pas.
Être dans cet état d'esprit, c'est d'être dans ton ego, de savoir que tu es dans ton ego et de ne pas le juger. De ne pas te donner raison. De ne pas dire que tu as raison, mais de savoir que tu es bête parce que tu refuses la présence de l'amour et ne pas te juger et dire une autre fois je ferai mieux. C'est d'être dans son ego, de ne pas se juger, de ne pas se justifier. Et ça, progressivement, ça fait énormément de bien. Ça commence à enlever... La culpabilité qui est au fond de nous tous, parce que cette culpabilité dit, j'ai dit merde à l'amour tous les jours, je dis à Dieu, au Saint-Esprit et à Jésus, je fais le bras d'honneur à eux et je dis, je vais engueuler celui-là, le prochain qui traverse mon chemin, je vais l'engueuler. Et le problème, c'est que je ressens une masse de culpabilité par rapport à ça, parce que c'est un choix inconscient. Le fait de rendre conscient ce choix, sans le juger, je commence à défaire la...
Le problème, c'est jamais d'être dans l'ego. Oui, c'est pas l'ego le problème. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher d'être dans l'ego. Le problème, s'il y en a un, c'est de vouloir rester inconscient.
Voilà.
Mais l'ego, c'est jamais le problème. On s'accroche sur l'ego encore pour... Et on veut y échapper le plus vite pour... Pour rester avec.
Voilà, vouloir échapper l'ego est une piège. Une piège,
de toute façon, il n'est pas là. Mais le problème, ce serait plutôt l'inconscience.
Ouais.
Si on pense qu'il y a un
conflit. Oui, oui, oui. Ou de vouloir tout le blanc et plus le noir. Le noir qui représenterait notre statut
voilà.
De souffrance. Et le blanc, que ouais, voilà. Je peux aller où je veux, n'importe où dans le monde, c'est toujours tranquille, même si on me tape ou si on m'engueule.
Oui. Non, c'est exactement ça. Ouais. Tous les deux sont irréels.
Oui.
La seule chose, c'est de reculer dans ce non-jugement. Reculer dans ce non-jugement d'observation. Et c'est ça notre porte vraiment vers cette autre magnifique expérience de tranquillité. Pas comme un objectif. La façon que tu le dis, non. Mais dans un autre sens, oui, absolument. Nous baignons dans cette magnificence tout le temps.
Encore, c'est la dualité. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'imperfection.
C'est
pas imparfait. On veut être
imparfait. Et développer on veut vraiment d'amour soit en permanence.
L'autocompassion.
Aussi, oui. Ce qui est... si on ne comprend bien la compassion, ça devient automatique. Compassion pour l'autre devient ce qui est la similitude. La prochaine étape, c'est exactement ça. On ne peut pas. Le fait de se voir exactement comme l'autre, c'est de pardonner l'autre et c'est le pardon pour soi-même, pour nos bêtises, nos erreurs de pensée.
C'est plus juger, c'est-à-dire plus juger les autres que soi.
Exactement.
C'est-à-dire que
le dernier jugement, c'était le non-jugement. Le parfait non-jugement.
Le jour où tu vois, où tu portes le dernier jugement sur les autres, sur toi.
On attend.
On ne sait pas, là, vous êtes.
On attend le...
Parce que tu vois, on va passer une semaine sans ça, et puis on ne sait pas.
Est-ce que le but, il va falloir que j'en revienne ensemble, le but de cet exercice-là, avant d'entamer les similitudes, la prochaine, c'était juste, voir si vous essayez de ressentir que chaque fois que vous ignorez la présence de l'amour et vous rentrez dans une situation de bagarre ou de tristesse ou de peur, qu'il y a une partie de nous qui est dans le guichet de contrôle, qui est en train de le choisir. Ce n'est pas juste quelque chose qui nous arrive par accident. Il y a une partie de nous qui l'a choisi et qui veut payer le prix de dire merde à l'amour. Le prix, c'est la réjouissance de la souffrance, de la peur ou de la tristesse ou de la colère. C'est d'essayer de ressentir cette partie de nous. Essayez de vous souvenir peut-être d'une instance dans votre vie où vous étiez soit très triste, où vous aviez très peur, ou vous étiez en colère. Essayez de voir qu'il y avait une partie de vous qui était totalement complice dans cette expérience, qui est presque comme si ça vous avait donné une substance à ce moment-là, de votre vie, de votre histoire, de votre statut, de vous. Il y avait une telle focalisation sur votre situation que ça vous a défini, et c'est de ressentir que c'est ça que le choix de cette expérience vous a donné. Ce qui est essentiel, c'est de voir pourquoi nous choisissons les expériences de non-amour, parce que si nous touchons cette partie de nous, nous allons avoir beaucoup plus de contrôle ou de pouvoir de décision dans l'avenir. Nous allons voir pourquoi nous choisissons le non-amour tout le temps. Si l'amour est une constante, ça veut dire que nous sommes en train de choisir le non-amour. Et il y a une raison. ça nous donne quelque chose, ça nous procure un sentiment, le non-amour. On adore le non-amour. On paye 8 euros chaque séance de ciné pour aller voir des images qui vont nous mettre dans la peur ou la colère ou l'injustice ou la tristesse. Nous payons de l'argent pour que les images nous mettent et nous provoquent ces sentiments de non-amour. Quelque part, nous devons nous alimenter de ça. Ça vous va? C'était un peu flou l'objectif de l'exercice, ou ça va? Ça vous a...
Non, mais c'est parfait.
C'est intéressant. Je défends la distance. Hein. Je suis pour la distance. Je trouve qu'il faut, avec les autres, toujours avoir une distance. Mm-hmm. Pour chercher la distance, oui, la plus confortable.
D'accord.
Ça peut être très proche avec certaines,
oui,
moyennement proche avec d'autres, et oui, plus loin. L'histoire de faire circuler justement beaucoup plus de paix, parce que de la notion. Voilà. Mm-hmm.
Ça aide à ne pas prendre personnellement quand il se passe des choses, parce qu'on ne s'est pas laissé entraîner dans un certain rapport avec les gens que nous savons vont essayer peut-être de nous entraîner déjà dans une certaine histoire.
Voilà, on ne se laisse pas embarquer. Mm-hmm. Et on respecte, on donne à l'autre l'espace,
oui,
son espace.
Oui.
Et nous aussi, on se donne à soi-même son espace de confort, enfin, de savoir quel est, à un moment donné, voilà, mm-hmm, quelle est la frontière entre,
oui,
le fait après de rentrer dans le système de l'autre. Ou, voilà, enfin,
si tu donnes cette distance, oui, sans jugement.
Sans jugement.
Oui, ça c'est très bien.
C'est le fait, il faut la trouver un petit peu. Il y a des ajustements.
J'aime bien l'idée. C'est un peu une façon un petit peu que je me suis préparé depuis des années, à savoir que chacun que je croise, chacun avec qui je rencontre, je rentre en contact, peut me décevoir profondément. Il peut me blesser profondément, peut m'attaquer, chaque personne. Et il risque de faire. Alors j'essaie d'accepter d'avance qu'il pourrait me faire ça, et de ne pas avoir peur si ça se produit, sachant que ça reste en potentiel, quasiment de le pardonner d'avance. Et ça m'arrive, je trouve beaucoup plus facile le rapport avec l'autre, beaucoup plus doux, sachant que d'avance, je sais que tu risques de m'agresser.
Tu te prépares au pire.
Mais quand tu te prépares au pire, le pire ne devient plus le pire, n'est plus le pire.
Et du coup, tu n'es plus dans la peur que ça arrive, vu, voilà, que tu as déjà guéri.
Exactement.
La chose en amont.
J'ai déjà accepté que quelqu'un peut me balancer tout ce qu'il veut, et je suis en train de le regarder et de dire, c'est pas grave.
Ouais. Oui, parce que l'autre a son histoire, donc, c'est ça, c'est là où la bonne séparation, c'est de respecter.
Mm-hmm.
La bonne,
c'est ça.
Respecter certaines histoires. On va voir si histoires peuvent se comprendre.
De ne jamais surestimer,
oui,
l'autre.
Oui, de ne pas projeter sur lui.
Et de ne pas avoir besoin que l'autre soit parfait.
Ouais.
De ne pas avoir besoin que l'autre ne me blesse pas. Ouais. Voilà.
Il se comporte comme on veut.
Exactement. C'est très délicat.
C'est avec soi-même, ça, quand on se met au clair.
Oui.
Bon, moi j'entends tout ça, je pense que c'est vraiment vrai, j'adhère.
Ouais.
Il y a quelque chose chez moi qui ne veut pas comprendre, c'est fou quoi. Je serais incapable de répéter ce que vous venez de dire. Je sens que c'est vrai, tu vois, mais
oui,
ça, dans l'expérience, j'arrive pas à l'imprimer.
Non, c'est peut-être, c'est tellement différent de la façon que nous menons les relations normalement, ce qui est par une idée de donnant-donnant. Là, la façon que Brigitte est en train de parler des relations, c'est pas vraiment donnant-donnant. C'est que je te donne, et n'importe ce que tu me donnes, je sais ce que je te donne. Je n'attends pas à ce que tu te comportes comme un vrai ami, parce que je sais qu'à un autre moment, tu ne seras pas un vrai ami. Tu vas peut-être me balancer aux autres, tu vas peut-être me raconter une méchanceté. Je sais déjà. Mais la façon normale de faire des relations ici, c'est vraiment avec une idée que voilà, je suis gentil avec toi, tu es gentil avec moi, je ne raconte pas des bêtises sur toi, tu ne me racontes pas des bêtises sur moi. Si nous comprenons comme ça, ça va. Si tu trahis ma confiance, ça ne va plus. Si tu fais, et donc, ça c'est la façon normale de faire. Nous ne parlons plus de ça. Là, c'est une autre façon de faire les relations. J'accepte d'avance que l'autre personne en face de moi peut me trahir, il va probablement me trahir. Et ça ne me gêne pas.
Oui, parce qu'on pensait tout à l'heure que l'idéal, c'est quand on communique avec l'autre, que l'autre il pense pareil que nous. Et ça, c'est trop d'idéal, c'est pas possible. Quoi.
Oui, c'est que la plupart du temps, ce que nous essayons de faire, c'est que ce qu'on communique avec un autre, c'est tout un schéma d'opinion, de jugement, de peur, de milliers de différents schémas de pensée qui sont dans un système de pensée, ce que nous appelons le système de pensée de la séparation, et nous essayons de trouver une autre personne qui partage à peu près la même configuration de pensée. Et nous avons l'impression de nous entendre le mieux avec ce genre de personne. Et le jour qu'ils disent un truc qui sort de cette configuration, ils disent « Ah ben tiens, vraiment j'ai pensé qu'on se comprenait bien. » Et ce que j'essaie de comprendre, c'est en fait que il n'y a que deux systèmes de pensée. Il n'y a qu'un système de pensée qui est bourré de différentes erreurs, parce que le point de départ, c'est que je suis un être fragile coupé de ma source, et en tant qu'un être fragile coupé de ma source, je suis imprévisible. Un jour que je serai bien, un autre jour je ne serai pas bien. Dans cet état d'imprévisibilité, de vulnérabilité, je peux être méchant un jour, je peux être vraiment aimant un autre jour. Dans l'autre système de pensée, je suis entièrement tranquille tout le temps, parce que je sais que je ne cherche rien chez toi. Je suis entier en moi, j'ai trouvé la plénitude chez moi. Donc je ne cherche rien chez toi, je n'ai plus besoin de te voir comme le problème dans ma vie. J'ai vu le seul problème que j'avais, c'était de retrouver l'amour en moi. J'ai retrouvé l'amour en moi, tu ne peux rien me donner, je ne peux rien te chercher, tu ne peux pas me causer un malheur, un vrai malheur. Tu ne peux pas enlever la présence de l'amour de mon esprit. Deux systèmes de pensée. Chaque personne est dans l'un ou l'autre de ces systèmes de pensée. C'est pour ça que nous avons une devise dans nos cours, que quelqu'un n'a que deux façons de s'exprimer. Soit ce qui fait une expression d'amour, ou c'est un appel à l'aide. Parce qu'il se sent coupé de l'amour. Soit il est dans une ressentie qu'il est joint avec l'amour, et dans ce cas-là, tout ce qu'il dit sera aimant, n'importe ce que tu lui dis. Soit il est dans un état où il se sent coupé de l'amour, et n'importe ce qu'il dit, méchant ou pas, sera un appel à l'amour. Même les...
Et les deux états se mélangent. Donc,
Tous les jours.
Tout le temps. On peut passer de l'un à l'autre.
Voilà. Exactement. Très rapidement.
Les enfants battus, c'est un appel à l'amour. Ils préfèrent garder une relation, comme on disait là tout à l'heure, des relations
qui sont pas bonnes,
plutôt que de ne pas avoir de relation.
Yes. Ah oui, les adultes, enfants battus, c'est ça les enfants.
Un enfant battu, c'est aussi un appel. Le fait qu'on préfère garder une relation, quand on devient adulte après, par exemple.
Oui, d'accord.
Il y a beaucoup d'adultes, d'enfants, des enfants battus qui reproduisent.
Oui, il y a ça. À savoir aussi que le bourreau, le persécuteur.
C'est aussi un appel à l'amour.
Exactement. Le fait de battre une autre personne est un appel à l'amour. Il n'y a que des êtres très souffrants.
Ça fait difficile d'avoir dans ce sens-là.
Toujours, toujours.
Toute la violence.
Voilà. C'est un exactement. C'est ce monde, d'un côté, est une expression de peur d'être coupé de l'amour, et par la suite, est une expression, un appel à l'aide, à la compréhension. Tous les êtres souffrants se sont coupés de cette présence d'amour. Voilà. Et toutes les gens qui sont violents, toutes les gens qui font subir des injustices sur les autres, y compris aussi des banquiers, les politiciens sans scrupules, les PDG des entreprises qui veulent exploiter les gaz de schiste, tous ces gens-là, pour faire ce qu'ils font, pour être disposés à faire subir les dégâts qu'ils souhaitent faire aux autres, ils doivent être complètement manquants de l'intérieur. Pour penser que ça peut leur changer de la vie d'exploiter les ressources ici ou d'exploiter les gens, mais ils doivent être complètement...
Tu vois, moi qui me situe plus facilement dans la victime, j'ai trop du mal à voir que le bourreau est en manque d'amour. Ça me dépasse un peu, quoi.
À mon avis, il est plus en manque d'amour que la victime.
Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pourquoi on a du mal. Ça garde un schéma de pensée en place. Ça veut dire qu'il y a des gens qui méritent plus la compréhension que d'autres. Ça veut dire qu'il y a des degrés d'acceptation, de mérite d'amour. Ça veut dire que nous ne sommes plus unis entièrement. il y a des aspects de l'unité qui sont plus méritants que l'autre. Ouais. C'est ce qui aide peut-être, c'est de voir que ces gens-là sont juste vraiment une expression d'une partie de nous. Il y a une partie de nous, même une partie de toi. Sylvie, c'est ça? Il y a une partie de toi qui réagit, qui peut réagir d'exactement la même façon que ces gens-là. Pense à tes bourreaux, ce qui est la prochaine étape. Allez, similitude. On y va. On va revenir ensemble pour ça, vite fait. Je crois, si on a le temps, on va voir. Ça peut faire du bien, absolument. Écoutez, est-ce que vous avez des choses à partager avec nous ou des questions par rapport à cette étape-là? J'ai visité un peu les différents groupes. Des fois, la discussion était vraiment sur la feuille, les questions sur la feuille. Des fois, on dérivait un petit peu sur autre chose, mais c'était toujours intéressant. On n'a pas vraiment le temps de lire de relire toute la feuille-là. Est-ce que vous avez des questions ou des points à remarquer là, avant qu'on lance dans le sujet similitude? Vous allez voir l'ensemble de ce travail, comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses, quelque chose qui était difficile ou une partie de la feuille qui vous semble moins évidente? Pareil, j'ai vu deux groupes à vraiment réfléchir sur la question, sur cette question. Est-ce que nous arrivons à voir la partie de nous dans un moment de dérangement, de réaction par rapport à l'extérieur? Donc souvent, c'est soit dans la gamme des colères, frustrations, condamnation, jugement des autres, soit dans la gamme de tristesse, perte, ou soit anxiété, appréhension, peur. Si vous vous souvenez d'un instant de l'une de ces réactions, est-ce que vous avez pu voir qu'une partie de vous a profité de cette émotion, de ce ressenti, de cette situation, pour confirmer sa propre présence psychologique dans un sens, sa propre existence, sa propre histoire? Souvenez-vous de cette histoire du guichetier, le guichet de contrôle. Si j'ai eu cette expérience de tristesse, peur ou de colère, ça veut dire qu'il est passé par ces guichets. Et le guichetier a dit « Oui, d'accord, vas-y, il n'y a pas de souci. » Au lieu de se tourner plutôt vers quelque chose, une perception plus tranquille, plus en recul, plus compréhensif, il a dit, non, pas dans ce cas-là. On va faire plutôt, cette fois-là, on va faire plutôt tristesse, colère, peur. Allez, on y va. On va bien le faire. Choisissons l'autoroute de la peur, ou l'autoroute de la colère, ou de l'anxiété, ou de la déprime. Et à ce moment-là, il a fait parce qu'il voulait ressentir son propre être en dehors de cette unité d'amour. Chaque fois qu'avec une arrière-pensée aussi, que s'il pouvait seulement être lui-même en dehors de la présence de cette unité d'amour, il aurait gagné ce qu'il voulait, c'était l'indépendance, d'accord? Mais si jamais il pouvait trouver un coupable, la personne qui était vraiment responsable à ce moment-là, il pouvait dire qu'il a gagné tout ce qu'il voulait. Et ce n'était pas lui qui était vraiment responsable pour cette séparation d'avec l'amour, pour cette expérience de manque d'amour, c'était cette autre personne. C'est ça la vraie nuance de cette affaire-là. C'est ça, c'est pas simplement que j'ai envie d'être moi-même, de diriger une statue à mon propre être indépendant de l'amour, c'est que je veux être cette statue, cet emblème, cette idole, à ma propre existence, mais je ne veux pas être responsable pour tous les différents maux que ça provoque en moi. Parce que quand ma décision passe par le guichet et choisit indépendance de l'amour, séparation, confirmation de ma propre vie, j'ai choisi tristesse, peur et colère. À ce moment-là, je suis rempli de non-amour. Ce n'est pas une expérience d'amour, forcément. Parce que j'ai dit non à l'amour. D'accord ? Mais je ne veux pas être responsable. Il faut que je trouve le coupable. il doit avoir une autre personne ou un microbe ou quelque chose ou des mauvais gènes ou une maladie, un virus. Il doit avoir quelque chose qui est responsable pour le fait que je suis malade, souffrant, triste, déprimé, colérique, jaloux ou je ne sais pas quoi. C'est un automatisme de l'esprit. Une fois que ça passe par les guichets de contrôle et que je choisis le non-amour, la séparation, au lieu de amour et unité, c'est un automatisme tellement rapide que je ne le vois même pas passer par les guichets. Ça fait... Ça passe à travers, comme si le bar de contrôle, il se lève automatiquement. Que je vais projeter ça, c'est-à-dire que je vais chercher la chose qui est responsable pour le non-amour, le manque d'amour que je ressens maintenant. Et je vais toujours trouver quelque chose. Voilà, du plus banal, on a vu, mon époux a fini le tube de dentifrice ce matin. J'ai pas le temps d'aller chercher l'autre tube qui est dans le placard, mélangé avec toutes les autres affaires et tout ça. Elle avait fini hier soir et n'a pas pris le temps d'aller chercher l'autre tube. Ça peut être vraiment des choses les plus banales. N'en parlons pas du papier toilette. D'accord. aux choses vraiment les plus graves comme l'effondrement de l'économie, qu'il n'y a pas de travail dans ma ville, il va falloir que je change complètement de ville maintenant à cause de ce de président ou je ne sais pas qui ou des anciens présidents. Et maintenant ça veut dire qu'il faut que je vende ma maison, mais puisque l'économie s'est effondrée, je vais vendre ma maison, je vais pas toucher un prix correct, donc je vais perdre sur ma maison, mais je vais même pas pouvoir récupérer pour payer l'hypothèque. C'est un délire total. Je dois trouver un responsable quelconque pour ma souffrance, pour expliquer pourquoi je souffre. C'est un automatisme. Ça veut dire on commence avec l'unité d'amour. Choix de sortir de l'unité d'amour. Déni, ça veut dire que je ne veux pas savoir que c'est ce que j'ai fait. Projection. Boum, 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 boum. C'est ce qui explique pourquoi je me promène dans la rue, j'ai mal. Je ne sais même pas des fois que j'ai mal, ça c'est le déni. Soudain, quelqu'un croise mon chemin, voilà, cette dame dans la rue, elle promène son chien, voilà, il fait crotte devant moi, je ne vois pas, je marche dedans, voilà. Et soudain, tout s'éclate. Et je me vois avec des réactions très très vives des fois avec des choses qui ne méritent pas ma réaction. C'est parce qu'on commençait avec unité d'amour, séparation, choix de séparation, déni, projection. C'est ce mécanisme là qu'on est en train d'identifier. On sort, on met tout ça dans le bocal du poisson rouge et on regarde tout ça.